Alors le sujet, c'est le mensonge. Donc c'est à ce titre que j'ai été embauché en tant que menteur, menteur professionnel d'ailleurs, puisque je suis accessoirement comédien. Et je vais vous parler d'un système, d'une structure, d'un objet qui s'appelle la publicité. Donc quand on dit la publicité, c'est la publicité marchande, la publicité commerciale. À ne pas confondre avec la publicité ou la publication d'informations. Donc par exemple, ce que font les gens du théâtre éprouvette, c'est de la publication d'informations, c'est de l'information. C'est tout à fait différent de ce qu'on nomme la publicité au sens de ce à quoi notre groupe qui se nomme Casseurs de Pub s'est attaqué. En toute non-violence, hein, il s'agit de casser avant tout les imaginaires et les idées. Alors qu'est-ce que la publicité au sens de la publicité commerciale? C'est donc un double mensonge. Le premier mensonge, c'est qu'elle est parfaitement inutile et à ce jour, aucune étude, aucune recherche, aucun sondage, rien n'a jamais pu prouver l'utilité de la publicité. Ça se voit d'une manière assez symptomatique et assez simple, on va dire d'une manière comptable, c'est que dès qu'une entreprise va mal, le premier poste qu'elle supprime, c'est la publicité. Or, si la publicité avait un sens et une utilité, évidemment, au fur et à mesure que les affaires déclinent, c'est à ce moment-là qu'il faut augmenter la publicité. Donc la publicité ne sert strictement à rien. Ça, c'est vraiment le premier mensonge qui est très important. Donc on verra un peu, peut-être plus particulièrement, mais je ne veux pas non plus parler, rassurez-vous, hein, je ne veux pas parler pendant 2 heures. Je vais faire une présentation de l'ordre de 15-20 minutes et puis après, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger. Donc voilà le premier gros mensonge de la publicité, c'est qu'elle a incrusté un espace économique un peu à la manière d'un impôt, c'est-à-dire que c'est un prélèvement obligatoire, invisible. On sait à un moment donné que voilà, il y a une somme d'argent qui part, mais on ne sait pas très bien comment ni pourquoi. On ne voit pas exactement son circuit. Bon, l'impôt, c'est un peu plus facile. Hein, quand on va au défilé du 14 juillet ou des choses comme ça, on voit à quoi sert l'impôt, acheter des armes, aller tuer des gens ailleurs et tout. Mais non, bon, la publicité, là, c'est encore plus invisible. Non, je dis des bêtises. Il y a aussi les écoles, il y a les hôpitaux. On s'occupe des gens. On sert des indemnités à tous ceux qui ne sont plus en état de travailler ou pour lesquels on ne propose plus de travail. Donc, les impôts servent à quelque chose. Alors que la publicité ne sert strictement à rien. Et pourtant, on nous prélève à tous les ans, de l'ordre de 3 à 4% du produit intérieur brut. C'est une somme assez importante, puisqu'elle est équivalente à la moitié du budget de l'éducation nationale. Alors, budget central, un budget du gouvernement français, budget de l'État, pour l'éducation nationale est de 60 milliards d'euros, et couramment en France, le budget de la publicité, c'est de l'ordre à peu près de 30 milliards d'euros. Donc on voit quelque chose qui ne sert absolument à rien, qui est financé par de l'argent qu'on vient nous prendre sans qu'on puisse s'y opposer, puisque lorsque vous achetez votre yaourt, il est très difficile de renoncer à payer la publicité. Quel que soit ce que vous achetez, sauf bien entendu quand vous achetez des produits à quelqu'un que vous connaissez de proximité ou qui est de l'ordre de l'artisanat ou du commerce simple. Puisque, encore une fois, la publicité ne concerne que la production industrielle. Ainsi, on sait maintenant, imaginons des Martiens qui arriveraient sur Terre, ils verraient qu'il y a 4 ou 5 fabricants d'automobiles sur la Terre, il y a 3 ou 4 fabricants de vêtements, de pantalons, il y a 2 ou 3 fabricants de chaussures, et il y a à peu près 3 ou 4 aussi fabricants de ce qu'on appelle la malbouffe, mais qui sont dans des proportions telles qu'on a l'impression que les terriens dans leur ensemble ne se servent que chez une dizaine de fabricants de produits. Donc ça, c'est le deuxième, si on peut dire, c'est une des étapes dans le mensonge de la publicité, c'est qu'elle a détruit des emplois. Elle a détruit des emplois dans une proportion qu'on ne peut pas imaginer, parce qu'elle concourt au resserrement de l'idée que la production est faite par certaines structures et les autres structures n'ont pas accès à la publicité parce qu'elle a pris une emprise en valeur commerciale, qui est tout simplement hors d'atteinte du commerçant ou de l'artisan de proximité. Ainsi, vous verrez pratiquement jamais, sauf dans de rares petites publications extrêmement locales, votre commerce de proximité, votre artisan, les commerçants du marché ne font pas de publicité. Ils n'en ont pas les moyens au sens de la valeur commerciale qui a atteint la publicité. Donc voilà, premier mensonge de la publicité, c'est qu'elle ne sert à rien. Et le deuxième mensonge de la publicité, c'est qu'elle prétend être ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'au début, à peu près au tournant des années 1920, la production de masse a commencé à émerger d'abord aux États-Unis pour une raison assez simple, hein, c'est que c'était le plus grand marché intérieur. C'est pas tellement dû à des notions qu'on peut voir... On peut penser que ça serait dû à un héritage culturel, voire à un héritage religieux ou autre. Ce n'est pas tellement le sujet. C'est plutôt le fait que c'était le premier grand marché, donc unique, qui a été conquis très durement, hein, puisqu'il s'est conquis après la guerre de sécession aux États-Unis, qui a été une guerre terrifiante. En fait, la première guerre industrielle, et qui a fait une quantité de morts vraiment astronomique. Et à la suite de ça, le pays s'est fédéré. Et donc ça a été le premier grand marché avec une langue unique, une monnaie unique et une structure d'échange commercial relativement unique. Il a donc été mis en place un système de production industrielle alors qui existait déjà, qui était en gestation, hein, puisque ça a commencé en Angleterre, ça a commencé aussi un peu chez nous, ça a commencé en Allemagne, avec la production du charbon, la production de l'acier, la mise en place du chemin de fer. Mais ça, c'était, quand on regarde les chiffres, on voit que ça, ce sont été les outils qui, après, ont permis à la production de masse de se répandre. Et à ce moment-là, il y a vraiment des petits malins qui se sont dit, il faudrait trouver quelque chose pour présenter ça bien, quoi, parce que c'est vrai que si on emmène les gens voir comment se fait le travail dans les usines, comment se fait le travail dans les mines, comment se fait le travail dans les hauts fourneaux, comment ça se fait que pour se chauffer chez soi, on envoie des enfants de 6 ans donc dans le noir, porter du charbon, les jeter dans des wagons tirés par des chevaux auxquels on a crevé les yeux, pour que nous puissions nous chauffer, pour que nous puissions avoir de l'électricité. En fait, ce monde était assez insupportable. Et il a trouvé une catégorie, malheureusement, une catégorie de personnes qui n'ont pas été, on va dire, bien apercevants, comme on dit du côté de Saint-Étienne et du côté du Puy, et qui ont dit ben, on va repeindre tout ça. Hein. Là, on voit maintenant la tentative, c'est que ce monde-là étant toujours aussi insupportable, on a essayé de le repeindre en rose, puis maintenant on va le repeindre en vert. Mais à l'époque, donc, la publicité a décidé de le repeindre d'une manière, agréable, et de présenter les choses comme étant vraiment merveilleuses. Nous sommes dans un monde merveilleux. L'acte d'achat est une chose vraiment naturelle. De toute façon, il faut absolument se procurer toutes ces choses-là parce qu'elles nous manquent. Donc, on ne savait pas avant qu'on avait besoin d'un message particulier quand on se levait le matin pour s'habiller, par exemple. Ensuite, pour manger, donc pour aller acheter de la nourriture. Ensuite, pour se déplacer, pour aller voir ses amis. On n'avait pas conscience qu'on ne savait pas le faire, ça. Il nous a donc fallu la publicité pour nous dire que ce qu'on devait manger, ce qu'on devait faire, comment on se devait se déplacer. Et petit à petit, la publicité a littéralement tout recouvert de ce qu'on appelle le champ, qu'on appelle maintenant le champ de la communication. En fait, le champ de la publication. Et la publicité est devenue ce système que l'on connaît, qui est littéralement totalisant, sinon totalitaire. Et on arrive même, on dit souvent une fin de l'histoire, mais ça, on va dire que ce sont des raccourcis, mais qui permettent d'avoir une image. La publicité est partout. La publicité a racheté les journaux. La publicité a racheté les moyens de communication. Et la part qu'elle ne pouvait pas acheter, ce sont les gens qui emploient la publicité qui l'ont achetée. C'est-à-dire que ce sont les grosses industries, les gros systèmes industriels, notamment chez nous les marchands d'armes, qui ont racheté l'objet dont se sert la publicité, qui sont les journaux et les moyens d'information. C'est aller encore plus loin, pour des raisons qu'on pourrait analyser par ailleurs, mais les hommes politiques, les élus, donc ceux qui sont en charge, c'est pas du tout une dévalorisation du politique, hein, mais les politiques, ceux qui sont en charge des affaires de la cité, avant se faisaient connaître en venant parler, on peut dire au corps à corps, au contact. Hein, on appelait ça des tribuns de préau. Donc on savait quand même que ces gens étaient capables d'avoir des idées, étaient capables de les présenter, étaient dans l'obligation de les présenter, étaient confrontés à des foules, étaient obligés de se rendre sur les lieux de travail, c'était pas du tout évident. Et pour une raison, encore une fois, qu'on peut analyser par ailleurs, ils ont décidé à peu près au tournant des années 1950-1960, donc évidemment ça a d'abord commencé aux États-Unis, toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il y a une avance des premiers pays qui se sont fédérés dans un marché unique avec une langue unique. Les politiques ont décidé d'utiliser le même moyen de communication et exactement les mêmes techniques. Alors pour les plus anciens, ça s'est passé chez nous par la première campagne de Jean Le Canuet, dont on a dit que c'était un politique qu'on présentait comme un paquet de lessive. Et c'est vrai puisque ce sont les mêmes personnes. Et on en est maintenant, on est dans cette consternation où nous voyons les hommes politiques qui sont conseillés par les mêmes personnes qui cherchent à nous continuer à nous vendre des savonnettes, qui cherchent à continuer à nous vendre évidemment de la lessive et des choses comme ça. Et c'est évidemment plus que consternant. Il y aurait une nécessité de redemander à ce personnel politique de dire mais vous, pourquoi avez-vous accepté ça? Alors c'est une double valorisation. La dernière couche, si on peut dire, ce sont toutes les structures à vocation humanitaire qui, d'eux-mêmes, se sont dit ben ça serait bien, voilà, pour communiquer un peu mieux, on va se faire prêter des surfaces, des espaces de publicité et autres. Et donc maintenant, il n'y a plus d'espace de présentation d'une idée, de discussion en dehors de ce qu'on appelle les panneaux publicitaires ou les agences de communication. Voilà où, à un moment donné où on arrive. Et bon, nous, on fait partie d'un groupe de gens qui ont toujours pensé que c'était assez inacceptable. D'une part parce que ce sont des débats qui ont eu lieu il y a 20 ou 30 ans et qui ont complètement disparu et qui seraient bien de reprendre. C'est-à-dire que les journaux n'équilibraient pas leur compte pratiquement à plus de 50% avec des recettes publicitaires. Il faut voir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'un journal comme Le Monde, un journal comme Le Figaro, un journal comme Libération pourrait très bien continuer sans publicité. Mais il faudrait qu'ils divisent ses revenus par deux. Donc éventuellement aussi le salaire de ceux qu'ils font par deux. Bon, ils n'ont pas accepté. Ils préfèrent être dans un système où ils utilisent la moitié de leur pagination pour la publicité. Donc il y a un mélange. Il y a un mélange qui est assez, qui paraît peut-être évident pour la plupart des gens. Ce qui nous semble un peu évident, on se dit, ben non, là c'est de la publicité, là c'est de l'information. C'est facile à dire. C'est facile à dire, mais le cerveau, la quantité de neurones qu'on a, la quantité de connexions qu'on peut avoir dans le cerveau, la quantité d'informations qu'on peut recevoir dans une journée, elle est absolument pas évidente. C'est-à-dire que le simple fait de regarder quelque chose, de devoir traiter l'information, de devoir la stocker, même de détourner la tête parce que ça nous intéresse pas, c'est une quantité de cerveau qui est utilisée. Quand ça se marie avec de l'information, c'est absolument pas neutre. Et chacun le sait, il suffit de voir la plupart, par exemple, des dossiers ou des reportages, même dans les journaux qui se veulent indépendants, est immédiatement marié avec une publicité de l'annonceur dont on va parler dans l'article. Ça, c'est courant dans tous les magazines, c'est courant dans tous les journaux. Donc on a là cette structure où on voit, vous voyez, par couche, où on arrive à une structure qui a incrusté le monde de l'information et qui est de l'ordre du pur mensonge. Alors on peut penser aussi que le système d'information en général, ce qu'on appelle les journalistes, des fois, sont un peu des menteurs. Ils sont un peu des menteurs, mais ils sont plutôt des présentateurs de l'information d'une manière qui leur semble plus acceptable par rapport à un lectorat. Parce que si vous faites aussi un petit peu attention en achetant un jour, achetez tous les journaux qui paraissent, hein, achetez les 7 ou 8 quotidiens nationaux, vous verrez que vous avez toutes les informations sur à peu près tous les malheurs du monde et qu'il n'y a pas tellement de désinformation au sens où on l'entend. La désinformation, elle vient de la quantité. Par exemple, là vous commencez à entendre parler, on commence à entendre parler d'une manière générale qu'il y aurait des problèmes climatiques et que de l'autre côté, peut-être que bientôt il n'y aura plus de pétrole. Vous trouvez ça dans tous les journaux maintenant. Bon, la désinformation, elle vient que c'est il y a 30 ans qu'il fallait nous dire ça et c'est il y a 30 ans que ça a commencé. Alors en même temps, comment est-ce qu'une structure d'information où se mélange, par exemple la publicité pour un marchand de voitures et un vendeur d'essence, comment est-ce que vous pensez qu'un journaliste ou une structure éditoriale, elle aurait pu, il y a 30 ans, nous dire « faut faire attention, si on continue comme ça, on va peut-être arriver à la fin d'un monde, et on va avoir vraiment, on est dans un espèce d'entonnoir, on le voyait très bien il y a 30 ans, mais bon, nous on va en parler en fait quand on pourra. » Maintenant, pourquoi les journalistes peuvent en parler ? Parce que des gens comme Shell, comme Total, comme Exxon, comme BP, en parlent eux-mêmes dans leur publicité. Si vous regardez, par exemple, BP, hein, s'appelait avant British Petroleum, ils ont eu une brillante idée, il y a 4-5 ans, ils se sont appelés Beyond Petroleum, ce qui veut dire par-delà le pétrole. Et c'est une structure, donc c'est une des plus importantes sociétés de vente de pétrole au monde. Et elle a compris, elle le sait, et donc elle n'hésite plus, depuis 4-5 ans, à dire, bientôt, on sera dans l'après-pétrole. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient vu une publicité de Gaz de France. Au moment où Gaz de France a été privatisé, la première tranche de privatisation de Gaz de France, ça remonte à 2-3 ans, 3-4 ans à peu près, il y avait une publicité pleine page où il y avait marqué « Nous sommes des gens sérieux, nous vous promettons du gaz pour 15 ans ». C'était absolument exact. C'était il y a 3-4 ans. Nous vous promettons du gaz pour 15 ans. C'est-à-dire que le gaz pas cher que nous vend Gaz de France, il va être comme ça pendant 15 ans. Et dans 15 ans, le gaz pas cher, comme le pétrole pas cher, il n'y en aura plus. Donc ça sera très cher. Évidemment, les structures d'information qui s'appellent les journaux, les journalistes, c'est très difficile pour eux de communiquer sur ces informations d'une manière régulière. Si ce qui les fait vivre en moitié, et en fait ce qui fait que leur structure actuellement existe, ne veulent pas communiquer sur le sujet. Parce que d'abord, soit ça les fâche, et donc ils ne payent plus, ils n'achètent plus de publicité, donc le journal il disparaît. Soit ils s'en vont carrément en essayant eux-mêmes de produire des journaux, hein, ça s'appelle les gratuits, on voit bien que ça existe. Hein. C'est une tentative de destruction de la presse quotidienne. Parce que la presse quotidienne, pour les publicitaires, n'a pas autant d'intérêt que ça. Hein. S'ils pouvaient remplacer les structures, les journalistes d'investigation qui restent et qui essayent de faire leur travail par des gens qui sont complètement dépendants donc de la publicité, il n'y a plus aucun système d'échange avec le lectorat hein, dans le gratuit. Encore une nouvelle tentative de la publicité pour vraiment éradiquer tout système de contestation. Et là, on arrive à une des dernières choses qui concerne à peu près une structure qui est dans le mensonge absolu, c'est qu'elle ne supporte aucune contradiction, ni la moindre critique. Et ça, c'est typique du menteur. Hein. Évidemment, vous rencontrez quelqu'un, ou vous-même, pour X raisons, hein, le mensonge est une des capacités de l'homme pour se défendre, pour survivre. Quand vous commencez à inventer des mensonges, donc des tiroirs, vous racontez une histoire. Si jamais quelqu'un, à un moment donné, commence à tirer sur un petit bout du fil de la pelote que vous avez bâtie, c'en est fini. Donc un menteur ne supporte absolument pas la contradiction, ou alors il est obligé d'ajouter une nouvelle couche. Et bien la publicité, c'est pareil. Et il faut voir jusqu'où c'est allé, hein, puisqu'on se trouve, nous être une structure... On est 400 personnes, on est à Lyon, on ne représente absolument rien. On a fait un magazine annuel qui s'appelle Casseur de pub, qui s'est vendu à 8-10 000 exemplaires. On peut dire que c'est purement anecdotique. Et bien, il y a un monsieur comme Séguéla qui a dit, voilà, les attentats terroristes, hein, on voit ce que c'est, l'antisémitisme et les casseurs de pub sont ceux qui cherchent à détruire notre monde. Alors, on a essayé de savoir hein, qu'est-ce qui en était arrivé à ça. Ben voilà, c'est le fait qu'on s'en soit pris à la publicité. Alors, comme on s'en prend à la publicité, ça veut dire qu'on s'en prend au grand capital. Comme le grand capital, on connaît par les gens chez nous qui véhiculent la haine, comme le Front National et autres, qui depuis des très anciennes traditions, on va dire un peu, de nos pays, étaient antisémites, donc avaient appelé les grands capitalistes les 200 familles. Donc si on est anticapitaliste, on est forcément antisémite. Comme on s'attaque aux Américains, forcément, virtuellement, c'est comme si on était des terroristes. Hein. Donc, en gros, à part pédophiles et nazis, c'est les seules insultes qu'on n'a pas eues, parce que là, faudrait presque le prouver. Mais non, du fait qu'on soit anti-publicitaire, on devenait l'égal des terroristes, l'égal des antisémites. C'est quand même... encore une fois, vous voyez, les 30 milliards d'euros à l'année contre une structure qui fait maintenant dans les 200 000 euros par an. Ça ne supporte pas la contradiction. Ça ne supporte la contradiction dans aucun domaine. Et ça, c'est une chose bon, qui est, à laquelle chacun est renvoyé. On ne sait pas comment faire repousser cette machine publicitaire, donc qui maintenant cherche encore à aller plus loin. Elle cherche à aller dans les écoles, puisque là, on a le public captif idéal. Dans les écoles, vous avez des enfants qui sont en état de réception des cerveaux disponibles face à des adultes qui ont la légitimité de leur apporter un savoir. À partir du moment où, quelles que soient les raisons, ces adultes qui sont en charge d'apporter le savoir aux enfants sont obligés ou se trouvent entraînés ou acceptent de véhiculer une quelconque idée qui passerait par la publicité, comme ce qu'on appelle par exemple les mallettes pédagogiques, c'est-à-dire que maintenant pour apprendre à se laver les dents, c'est le vendeur de dentifrice qui nous apprend à nous laver les dents. Maintenant, c'est Coca-Cola qui nous apprend à ne pas boire trop sucré. Et ainsi de suite, ce sont toutes les structures de vente de malbouffe qui vont lutter contre l'obésité. Et là, on voit, c'est une intrusion qui doit être vraiment refusée de toutes les manières possibles, parce que c'est l'idéal pour la publicité. C'est le public captif. Et c'est le temps de cerveau disponible. Et on doit remercier M. Lelay d'avoir eu ce sursaut de... Comment dire de franchise, mais en même temps, si vous aviez l'occasion, ce qu'on peut pas vraiment faire, mais si lorsqu'on peut tomber sur des journaux pour les publicitaires, des journaux qui sont écrits par les publicitaires pour les publicitaires, ou dans les écoles où ça prend la publicité, vous verrez qu'il y a bon maintenant évidemment le fait que ça soit rendu un peu public, les gens de la publicité ont commencé à se dire peut-être qu'il faut qu'on change de langage, ce qu'ils sont en train de faire. De même qu'on repeint notre horreur industrielle en vert, les gens de la publicité, de même, vont eux-mêmes se repeindre en n'importe quelle couleur. Vous pouvez regarder maintenant les publicités sur les voitures. Les voitures, elles nettoient l'air. Et on va vous vendre la voiture propre, bientôt. Donc on peut dire que jusqu'à présent, toutes les voitures qu'on a utilisées sont des voitures sales. Ça, c'est clair et net, puisque on va bientôt avoir des voitures propres. Donc si les mots ont un sens... Bon, vous n'avez jamais vu des publicités, vous parlez de la voiture sale. Ouais, donc, là on voit qu'à un moment donné, ce qui a racheté toute la surface de communication entraîne quand même des dégâts, parce qu'elle empêche qu'il y ait des débats sur des choses qui sont fondamentales. Par exemple, la souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, c'est pas d'aller à l'hypermarché acheter des pommes du Chili et de l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est vraiment le contraire de la souveraineté alimentaire. Acheter des ananas qui arrivent en avion frigorifique, ou des haricots verts, ça n'a tout simplement pas de sens. Comment on fait pour s'opposer donc à ce gigantisme et à cette structure qui a aussi racheté le monde culturel dans la plus grande partie, Que peuvent espérer faire les étudiants des beaux-arts? Nous, c'est une question qui nous a presque choqué, parce que quand on a lancé cette idée de casseurs de pub, bon. On a vu qu'il y avait des gens qui essayaient de temps en temps, il y avait des groupes, il y avait des professeurs qui essayaient de montrer le côté pernicieux. Et puis après, il y a des jeunes qui se sont dit, bah ouais, casser la pub, mais bon, eux, ils font casser la pub, c'est virtuel, nous, on va le faire vraiment, donc on va les taguer, on va les détruire les affiches et autres. Donc on a essayé de communiquer. Ce qui serait bien, en fait, c'est d'utiliser les surfaces qui sont utilisées par la publicité, soit pour faire de l'art, soit pour renvoyer des messages qui pourraient être intéressants. Ce que la plupart des groupes ont fini par faire. Mais ce qui est étonnant, c'est que, bon, nous, on existe depuis 99. Des gens qu'on connaît qui s'appellent Résistance à l'agression publicitaire existent depuis 92. Les discussions sur la publicité existaient dans les journaux dans les années 80. Ce qui est étonnant, c'est que tous les matins, tous les étudiants en beaux-arts, tous les étudiants en arts appliqués, quand ils passent devant un détournement de leur savoir-faire, mais pourquoi ils n'en font pas leur lot quotidien? Eh ben non seulement ils n'en font pas leur lot quotidien, mais pratiquement 80% d'entre eux iront travailler après pour la publicité. Parce que la troisième couche, si on peut dire générale, de mensonge de la publicité, c'est qu'elle n'a rien inventé dans aucune technique. Il n'y a aucune technique de communication, il n'y a rien. C'est du pillage, du vol, pur et simple, de toutes les techniques artistiques. Alors là, qui existe, qui remonte jusqu'à la grotte de Lascaux. Il n'y a pas de... C'est pas très compliqué à montrer ni à voir. La publicité, c'est pas telle agence de publicité, c'est pas telle forme de publicité. La publicité n'a qu'un seul message. Elle doit absolument, pour exister, faire croire à ceux qui la payent qu'elle a une utilité. Donc elle a un message qui est acheté. Pour que ce message acheté soit reconnu comme ayant une valeur, même si on peut démontrer qu'il n'en a pas commercialement, il faut qu'il entraîne quelque chose qui vous marque. Et la seule manière d'entraîner quelque chose qui marque un être humain, c'est de faire résonner dans sa tête quelque chose qu'il connaît déjà. C'est pour ça que, on pourrait dire consubstantiellement, si je peux me permettre pour la publicité ne peut que utiliser quelque chose que vous connaissez déjà et essayer de le relier à donc le produit, le yaourt, n'importe quoi. Et en ce sens-là, la publicité a exploré tout ce qui existait de l'ordre de la psychologie, de la sociologie, des arts. Nous sommes maintenant dans les neurosciences. Et ça va assez loin. Alors là, il y a un vrai risque. Hein. Il y a un risque de dérapage, comme avec toutes les techniques numériques. Notamment, bon, vous connaissez tout sur les problèmes de l'identité, donc avec les tests ADN, les passeports biométriques et autres. Et là, la publicité va envahir ce champ-là. Et là, il y a un risque qui est important, parce que nous avons une capacité de réflexion, nous avons une capacité de réaction qui demande quand même un certain temps. Or là, la publicité, grâce aux techniques informatiques, va aller plus vite que nous, si on peut dire. Parce que il y a encore 7 ou 8 ans, quand vous alliez dans un supermarché, on vous donnait un questionnaire à remplir. Vous remplissiez le questionnaire après était passé à des gens qui vérifiaient que c'était bien rempli. Ensuite, ils l'envoyaient à la structure centrale qui lançait une campagne de communication dans les 15 jours ou dans les 3 semaines ou dans les mois à venir. Or là, avec les neurosciences, avec les techniques de captage des informations, avec les moyens informatiques, vous allez répondre au questionnaire à l'entrée du supermarché. Et quand vous serez à la moitié de vos achats, la réponse sera là. Et vous ne la verrez pas. C'est-à-dire, on ne la verra pas. On répond là à mes besoins, là. On répond à mes besoins en temps réel, selon la journée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des personnes, et ça peut même être identifié à la personne, vous allez trouver devant vos yeux les produits auxquels vous avez pensé. Alors, ce n'est pas encore ici. Mais vous verrez des tas de, si vous avez l'occasion de le voir soit dans les journaux ou autres. Par exemple, actuellement, là, je l'ai lu ce matin dans un journal des Américains pour les Français, le International Herald Tribune, qui disons que le côté anglo-américain de l'information n'est pas comme le côté français. C'est-à-dire que dès qu'ils ont une information, ils la publient parce qu'on sait à qui appartient le journal. Hein, le New York Herald Tribune appartient à Monsieur Bloomberg, qui est maire de New York. Donc il n'a pas à se cacher de ses idées. Donc les gens qui travaillent dans son journal publient les informations. Donc là, il y a un restaurant d'entreprise en Hollande qui mesure tout. C'est-à-dire qui mesure la manière dont vous mâchez, la manière dont vous regardez les aliments, la manière dont vous réagissez par rapport à la couleur des aliments, la manière dont, quand vous regardez un aliment ou un homme regarde une femme ou une femme regarde un homme, quelle est la réaction, la manière, comment vous vous déplacez pour aller en reprendre dans votre assiette, le poids exact que vous pesez, la manière dont vous marchez. Donc il y a des témoins, il y a des prises d'informations, des caméras, des micros, absolument partout. Et il y a 250 personnes qui ont trouvé ça relativement intéressant, qui ne sont pas du tout gênées. Donc, vous entrez, à partir du moment où vous entrez dans ce restaurant, ce n'est qu'une expérience pour l'instant de laboratoire, mais vous voyez la taille de l'expérience. En temps réel, tout ce que vous faites, la température de votre corps, au sens de ce qui s'appelle l'électrocardiogramme, c'est-à-dire la manière dont vous réagissez, les mouvements oculaires, tout est mesuré. Qui finance ce genre d'opération? D'une part, il y a la médecine, et d'autre part, il y a les fabricants de nourriture. Et évidemment que s'ils le font, c'est pour s'en servir. Donc vous imaginez dans un futur proche, vous sortez de chez vous, et évidemment, à un moment donné, encore une fois, nous n'aurons pas la capacité intellectuelle, nous, en l'espace de 2-3 heures, dans une journée, de résister à quelque chose qui est une empreinte qui est prise sur des millions et des millions de gens et qui nous rattrape dans notre quotidien avant qu'on ait eu le temps de s'informer de ça. Il y a quelqu'un qui a eu cette vision, et je m'arrêterai là-dessus pour laisser la place au débat, c'est George Orwell, qui a écrit une nouvelle qui s'appelle 1984. Il l'a écrit en 1948. Il a donc simplement inversé le 8 et le 4. Pour dire, voilà, ça sera comme ça dans le futur. Donc, il a renvoyé deux choses. Hein. Il a dit, chez tout le monde, il y aura un écran qui nous regardera. Alors, il s'est simplement... tout le monde a dit, il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé. Il s'est simplement, effectivement, trompé sur le sens. C'est-à-dire que l'écran n'a pas besoin de nous regarder, puisque nous regardons l'écran. Donc c'est complètement inutile que l'écran nous regarde. C'est puisque nous le regardons, donc ça passe dans le même sens et il n'y a pas de communication puisque vous pouvez essayer de parler à votre écran. De toute façon, vous êtes obligé de suivre les images et ça c'est dû à notre capacité des yeux. Hein, une image qui bouge, on est condamné à la regarder. Donc il y a un écran dans chaque pièce et c'est la vraie réalité puisque maintenant les gens qui ont le pouvoir ou l'accès économique à ça, les enfants qui ont leur chambre, ils ont aussi leur télévision. Il y a un écran dans chaque pièce et puis dehors, à l'extérieur. Il y a un écran général sur toutes les places avec un visage. Et le visage, c'est une superposition de milliers et de milliers de visages qui sont constamment surveillés par la vidéo. Et le pouvoir en place à ce moment-là a des curseurs. Et il cherche à faire que le visage, donc vous voyez la superposition de milliers et de milliers de visages, il cherche à faire que le visage sourit. Ou soit triste, ou soit en colère, selon qu'on a besoin de gens qui fassent la guerre, selon qu'on a besoin de gens qui soient contents pour acheter, selon qu'on a besoin de ceci ou de cela. Et donc il y a une espèce d'affinage. Donc quand on voit que les gens rigolent trop, on lâche des hordes de policiers qui vont massacrer un certain nombre de personnes, et hop, tout à coup, les visages évidemment deviennent tristes. Donc immédiatement, hop, on déclare la guerre. Puisque les gens ne sont pas contents, ils ont quelque chose qui... Alors, on se sert... Au moment où on a besoin que les gens fassent la guerre... On rend les gens tristes. Et puis comme ça, le visage varie toute la journée en fonction. Donc il est la représentation idéale de tout le monde. Ça, c'est ce qu'est en train de faire la publicité avec les neurosciences. Voilà. J'arrête là pour cette présentation et pour vous laisser, s'il y a des questionnements ou un débat. Voilà.